France Inter. Céline Asselot pour le journal. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Ce devait être un tête-à-tête, mais la liste des participants s'est brusquement allongée. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Keir Starmer se sont invités à la rencontre prévue demain à Washington entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. L'Europe veut se montrer unie pour peser dans les négociations. Il sera notamment question demain des garanties de sécurité apportées à l'Ukraine en cas d'accord de paix. Direction Bruxelles et les États-Unis. Il faut mettre en place un pacte national face à l'urgence climatique. On ira en Espagne, où le Premier ministre veut tirer les leçons des incendies massifs qui ravagent le pays. Alors qu'en France, la canicule commence à perdre du terrain. Ça va s'améliorer la semaine prochaine, Virginie Hilson-Lévy.
Oui, avec le retour des orages et donc une baisse des températures plus franches ce lundi et surtout entre mardi et mercredi. Tous les détails à venir.
En Israël, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui pour la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages. Reportage à suivre. Et puis c'est l'autre club de la capitale. Le Paris FC va-t-il réussir son entrée en Ligue 1, ça semble mal parti pour les Parisiens face à Angers. On va voir ça à la fin de ce journal.
France Inter.
C'est une configuration inédite depuis le début de la guerre en Ukraine. Une demi-douzaine de dirigeants européens qui font le déplacement à Washington pour faire corps derrière Volodymyr Zelensky. Invité par Donald Trump à la Maison-Blanche, les 27 bien décidés à se faire entendre. Laxmilota, vous êtes à Bruxelles.
Volodymyr Zelensky a demandé à ses alliés de venir avec lui. Le président ukrainien sera donc accompagné du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Friedrich Merz, de la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni ou encore du secrétaire général de l'OTAN et d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Ce sont des moments difficiles. Seule l'Ukraine peut décider de son destin, mais elle pourra toujours compter sur l'Europe.
Il faut dire que la dernière visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis en février avait tourné au fiasco. Donald Trump et le vice-président américain s'en étaient pris verbalement à lui devant les journalistes. Le président ukrainien assure aujourd'hui ne rien savoir de ce que Vladimir Poutine et le président américain se sont dit en Alaska. Cet après-midi, la coalition des volontaires s'est réunie en visioconférence. Il s'agit de 31 pays, la majorité des pays européens, plus la Turquie, le Canada et l'OTAN. Objectif, s'assurer d'avoir une position commune demain dans le bureau ovale, notamment sur la sécurité de l'Ukraine en cas de nouvelle agression et l'intégrité territoriale du pays. Les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force, a rappelé Ursula von der Leyen. Bruxelles, Laxmilota, France Inter.
Et cette position commune que les 27 vont donc tenter de faire entendre demain à Washington, Emmanuel Macron l'a résumé tout à l'heure.
L'objectif qui est le nôtre demain est simple. Le premier, c'est de rappeler ce qui unit l'Ukraine, les Européens, les États-Unis d'Amérique. Nous voulons la paix, une paix robuste, durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international, qui est précédée par la restitution des prisonniers, des enfants, et qui permet de s'installer dans la durée, c'est-à-dire qui respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les pays. Il n'y a qu'un agresseur, la Russie, et il n'y a aujourd'hui que, au fond, un État qui propose une paix qui serait une capitulation, qui est la Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de pouvoir ici rappeler qu'il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. Nous y allons demain, pas simplement pour accompagner le président Zelensky. Nous y allons pour défendre les intérêts des Européens.
Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon, où le président de la République est en vacances et qu'il quittera dans quelques heures pour prendre la direction de Washington. Alors côté américain, justement, comment vit-on ces derniers développements? Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Céline.
Vous êtes en direct des États-Unis. Donald Trump avait espéré tout régler grâce à sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska. Les résultats, on le sait, n'avaient pas été à la hauteur des attentes. Le voilà donc qui se prépare à accueillir toute une délégation européenne. Et le ton, Loïc, est résolument à l'optimisme.
Oui, absolument, mais les intentions du président américain, elles, restent obscures. Alors, si on écoute les déclarations des uns et des autres, tout va très bien. Donald Trump parlait ce matin de grands progrès obtenus avec la Russie. Son émissaire spécial, Steve Witkoff, lui, se dit optimiste. Et Marco Rubio, le secrétaire d'État, réitère des menaces de sanctions à l'égard de Moscou. Pourtant, et malgré les apparences, Volodymyr Zelensky et les Européens ont des raisons de s'inquiéter. On ne sait pas, rappelle le président ukrainien, ce qui s'est dit à Anchorage. outrage entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La Russie aurait accepté, dit Witkoff, les garanties de sécurité proposées par Washington, mais lesquelles ? Eh bien, on ne sait pas. Et Moscou, poursuit-il, aurait fait des concessions territoriales en vue d'un accord de paix, ce qui veut surtout dire que Washington discute avec le Kremlin d'une annexion de territoires ukrainiens. Autant dire que Volodymyr Zelensky avait intérêt à venir entourer à la Maison-Blanche demain, 6 mois après avoir été humilié dans le bureau ovale.
Merci Loïc Loury, correspondant de France Inter aux États-Unis. Des inondations meurtrières à Valence l'automne dernier, aux incendies qui ont ravagé 115 000 hectares cette semaine. L'Espagne doit mieux se protéger et s'adapter au changement climatique. Annonce du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez qui était en déplacement aujourd'hui en Galice, région où les pompiers luttent contre des feux massifs. Le gouvernement va déployer 500 militaires supplémentaires pour tenter d'y faire face. Et il veut aussi mieux préparer l'avenir. Correspondance en Espagne de Mathieu de Taillac.
Dans la province de Cáceres, dans l'ouest de l'Espagne, plus de 4000 habitants ont été évacués. Le terrible incendie de Jarilla, complètement hors de contrôle, risquait d'atteindre leur maison. En Castille-et-León, quelques 3000 autres personnes ont été appelées à quitter leur domicile, alors que 27 feux sont actifs dans la région. En Galice, enfin, 12 feux ont brûlé plus de 50 000 hectares. C'est de là que le chef de l'exécutif, Pedro Sanchez, a pris la parole.
Vamos a proponer...
Nous allons proposer un grand pacte d'État pour atténuer l'urgence climatique et nous y adapter. Cela concerne toutes les administrations publiques, mais aussi les groupes parlementaires, l'ensemble de la société civile, la science, l'entreprise, les syndicats, en somme, l'ensemble du pays.
En définitiva, al conjunto del país.
Il faut que l'urgence climatique soit en dehors de la lutte partisane, que l'on se concentre sur la réponse scientifique et que l'on agisse en conséquence.
Le changement climatique, a expliqué Sanchez, n'est pas une abstraction. Les incendies ou les terribles inondations de Valence en sont les manifestations les plus concrètes en Espagne. Il a prévu de présenter en septembre les contours de son initiative politique. Madrid, Mathieu de Taillac. France Inter.
Alors, la baisse des températures à partir de demain devrait offrir un peu de répit aux pompiers en Espagne, mais aussi en France, où le risque d'incendie était jugé aujourd'hui très élevé dans une large partie du sud-ouest et même extrême dans le département de l'Aude. La canicule est en atténuation, dit Météo France. Seuls 13 départements du pourtour méditerranéen seront encore en alerte orange demain contre 25 aujourd'hui. Et on verra les températures en détail dans quelques minutes. Aujourd'hui, nous approuvons le plan pour la prochaine phase de la guerre, déclaration du chef d'état-major israélien. L'armée va concentrer ses opérations sur la ville de Gaza pour frapper le Hamas, je cite, de façon décisive. Et ce communiqué sonne comme une réponse à la journée de mobilisation lancée par les familles des otages. Beaucoup de monde attendu ce soir à Tel Aviv, des rassemblements organisés un peu partout à Jérusalem, notamment devant la résidence officielle du Premier ministre Benjamin Netanyahou, où les manifestants ont réclamé la fin de la guerre et le retour de tous les otages. Alice Moreno.
Il y a des habitués qui se mobilisent chaque semaine depuis des mois, comme cette franco-israélienne arrivée à Jérusalem en 1967.
Je pense que la situation est catastrophique, elle est absurde. Notre gouvernement est complètement cinglé.
Elle déplore la décision du gouvernement d'étendre l'offensive à toute la bande de Gaza.
Je pense que c'est une énorme bêtise. Je ne connais pas dans l'histoire un seul cas où un pays a gagné sur des guérilleros terroristes.
Sarah craint pour la sécurité des otages encore retenus dans l'enclave.
Nous jouons avec la vie des gens juste pour des raisons politiques, pour que cette coalition survive, et ce n'est pas humain.
L'épuisement des troupes est aussi l'une des préoccupations majeures des manifestants.
Ce n'est pas seulement pour les otages. Mon mari, mes frères, mes amis sont tous réservistes. C'est pour cela que mon mari n'est pas là aujourd'hui. En dehors des otages, je ne veux pas que cette guerre continue.
Une partie de plus en plus importante de la population ne comprend plus les objectifs de guerre affichés par le gouvernement et n'attend qu'une chose, qu'un accord soit trouvé avec le Hamas. Jérusalem, Alice Moreno, France Inter.
En Bolivie, la gauche qui était au pouvoir depuis 20 ans va-t-elle devoir laisser sa place? C'est le premier tour ce dimanche de l'élection présidentielle et ce pourrait être le scrutin du changement dans un pays miné par une grave crise économique. Précision à la passe de Nils Sabin.
Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h dans toute la Bolivie. Les électeurs doivent départager 8 candidats qui briguent la présidence, élire 130 députés et 36 sénateurs. Le pays andin est en grande partie à l'arrêt. Interdiction de circuler en voiture sans autorisation, les gares sont fermées et les vols nationaux également suspendus. Alors que la gauche règne sans partage depuis presque 20 ans, ces élections générales sont très incertaines. Une crise économique touche le pays avec une forte inflation, des pénuries de carburant et de dollars. Et le gouvernement actuel est très impopulaire car jugé responsable de cette situation par la population. Résultat, deux candidats de droite sont en tête de tous les sondages. Des enquêtes d'opinion très imprécises en Bolivie, mais qui donnent espoir à l'opposition. La gauche est également divisée pour ces élections. L'ex-président Evo Morales n'a pas pu se présenter comme candidat. Il a donc appelé ses partisans au vote nul. Celui-ci devrait être bien plus important que lors des dernières élections. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 16h heure locale et les premiers résultats sont attendus en milieu de soirée. En cas de second tour, celui-ci aura lieu au mois d'octobre.
Nils Sabin en Bolivie pour France Inter. Et puis en Serbie, le président promet une réponse forte pour, je cite, « rétablir la loi, l'ordre et la paix ». Après 5 soirées consécutives de manifestations, le mouvement de contestation contre la corruption, porté depuis des mois notamment par les étudiants, s'est durci ces derniers jours et 130 policiers ont été blessés.
France Inter. Céline Aslo.
Il y a sans doute eu des soupirs au moment de ranger les maillots de bain dans la valise, mais il y a certainement maintenant un peu d'impatience à l'idée de rentrer à la maison. La route est très chargée dans le sens des retours. Ce dimanche était classé rouge dans le sud-est de la France. Beaucoup de monde aussi dans les avions, dans les trains en ce dimanche soir, mais également dans les autocars, car il ne faut pas les oublier. Les bus Macron, comme on les a surnommés, viennent de fêter leur 10e anniversaire en ce mois d'août. La ligne la plus fréquentée est celle qui relie Lille à Paris. Et les voyageurs ont tous une bonne raison d'avoir préféré le bus, Louise Forbin, à la gare routière de Lille.
Un bus se gare et des dizaines de passagers se lèvent, billets dans une main, valise dans l'autre.
Bonjour, vous pouvez mettre la valise de l'autre côté.
Vanessa a 30 ans, elle se rend à Paris avec ses deux enfants. Et si elle prend le bus, c'est avant tout pour faire des économies.
Je paye 11,90€ l'aller. TGV, j'en ai pour 40€. Donc à 3 personnes, on fait les calculs.
Laurent range sa valise dans la soute. À 62 ans, il a pris l'habitude de voyager en autocar.
J'y voyage à peu près 10 fois par an. Parce que c'est pratique, c'est respectueux des horaires. On a toujours de très bons chauffeurs et le confort s'y trouve aussi.
Pour Rémi, un autre voyageur régulier, le bus est aussi l'occasion de faire des rencontres.
Surtout si on voyage beaucoup tout seul et qu'on passe quasiment toute la nuit avec un inconnu, ce qui est assez drôle souvent. Et du coup, de temps en temps, on discute et on rencontre de gens de tout type.
Un peu plus loin, Pamela attend le départ pour Amsterdam. 3h30 de trajet. Pas grand-chose pour la jeune femme qui a déjà voyagé en bus depuis Lille jusqu'à Florence, en Italie.
Presque 24 heures parce qu'on s'arrête à Paris. On fait escale là-bas avant d'arriver à Florence le petit matin.
Et comment on s'occupe pendant 20 heures de bus ?
On travaille, on écoute de la musique, on dort, on pionce, on mange.
Prochain périple pour Pamela, quelques jours à Barcelone. Départ de la gare routière de Lille à la fin du mois d'août.
Reportage à Lille, signé Louise Forbin, ici Nord. Un jeune homme de 19 ans a été mis en examen aujourd'hui dans le Loiret. Soupçonné du meurtre d'un mineur de 16 ans, vendredi soir à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans. Condamné à plusieurs reprises, notamment pour trafic de stupéfiants. Le suspect n'avait aucun lien avec la victime, selon les premiers éléments de l'enquête. Et puis on va maintenant prendre la direction d'Angers, où nous attend François Ventéjou. Bonsoir.
Bonsoir.
Angers, premier adversaire du Paris FC, l'autre club de la capitale, qui vient de retrouver la Ligue 1 après 46 ans d'absence, avec beaucoup d'ambition. Mais ça commence plutôt mal, François, pour les Parisiens.
Oui, plutôt mal pour les Parisiens avec une courte défaite 1-0 pour leur retour en Ligue 1 ici au stade Raymond Coppa d'Angers. Les Angevins ont ouvert le score à la 9e minute de jeu grâce à leur attaquant Esteban Le Poll. Le Paris FC a ensuite beaucoup tenté, beaucoup essayé avec de nombreux tirs, notamment de l'extérieur de la surface. Avec, on a vu Ilan Kebal, Maxime Lopez ou encore Vincent Marchetti. Angers a beaucoup défendu, réduit à 10 à la 57e minute de jeu après le carton rouge de Louis Mouton. Mais il a fallu un Hervé Kofi héroïque, fantastique dans les et cage du SCO avec 8 arrêts pour permettre au SCO de remporter ce match 1-0 cette première journée. Donc pour le Paris FC, il n'y a rien de dramatique. Une saison, c'est un marathon, rien ne sert de tirer des conclusions après une seule journée, même si on a tout de même vu dans le jeu parisien des bonnes intentions. Mais on imagine qu'il y a quand même une pointe de déception pour le président Pierre Ferracci de démarrer cette aventure en Ligue 1 de cette manière, mais aussi pour l'actionnaire majoritaire du club. On le rappelle, depuis novembre dernier, c'est la famille Arnaud, elle a investi dans le club, elle est actionnaire majoritaire. Elle a pour objectif d'installer le Paris FC durablement en Ligue 1 et pourquoi pas en Europe. Le budget a augmenté cette saison avec plus de 100 millions d'euros. Ça le place dans le top 7 des clubs de Ligue 1 cette saison. Le Paris FC aura une revanche à prendre après cette défaite la semaine prochaine pour un nouveau déplacement, cette fois à Marseille.
C'est bien noté. Merci François Ventéjou en direct d'Angers. Et puis ce soir, ce sera au tour du PSG de faire sa rentrée. Le champion d'Europe rencontrera Nantes. Ce sera 20h45. Et puis, il avait incarné le super marchand, le super méchant dans les films Superman des années 80. L'acteur britannique Terence Stamp est mort à l'âge de 87 ans après une carrière très éclectique de Priscilla Folle du désert. À Théorème de Pasolini. La météo tout de suite.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Et c'est l'heure de vos prévisions météo, Virginie Hilson-Lévy, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et ça y est, le changement de temps va se mettre en place demain.
Oui, après une nuit encore très douce sur la façade atlantique, le sud-ouest et surtout les régions méditerranéennes avec localement encore 25 à 27 degrés sur les plaines du Languedoc-Roussillon. Alors la canicule va prendre fin progressivement en début de semaine prochaine avec le retour des orages. Ce lundi, le soleil sera bien présent sur tout l'est jusqu'à l'intérieur du Var. Hormis les Alpes du Sud et la montagne Corse avec encore des orages. À l'ouest, en revanche, le ciel sera un petit peu plus nuageux en journée de la Bretagne à la basse Normandie, au nord de la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'en région toulousaine, le Tarn et l'ouest de l'Aude. L'ambiance deviendra aussi lourde et orageuse au fil des heures.
Et les températures vont continuer à baisser.
Oui, en journée, les températures ne dépasseront pas 30 degrés au nord de la Seine, près de la Manche. Ce sera enfin moins chaud en Aquitaine, entre 27 et 33 degrés en général, 27 degrés attendus à Bordeaux et encore fréquemment 34-38 degrés de la vallée du Rhône à la Provence et à l'est de l'Occitanie. Les températures baisseront encore plus, franchement, entre mardi et mercredi, avec de violents orages en prévision.
Les prévisions météo de Virginie Hilson-Lévy. Merci Virginie.